Radio Capi, grand témoin.
Ancien président de l'Assemblée nationale pendant la transition, actuellement député national et secrétaire exécutif national du MLC, Thomas Louakalou Sendjola est l'invité de Grand Témoin. Nous lui disons merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Radio Capi, Grand Témoin.
Thomas Louaka, pour commencer, dites-nous, Thomas Louaka Losenjola, c'est un nom à consonance, c'est là.
Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison parce que je suis membre de la tribu Tetela, mais un sous-groupe qui habite le Maniema qu'on appelle les Koussou. Donc, Thomas Louaka Losenjola, c'est un nom Tetela.
Et vous êtes originaire du Maniema?
Je suis originaire du Maniema.
Alors que beaucoup pensaient que vous étiez de l'Équateur.
Non, non, j'ai fait tourner longuement dans l'Équateur. Tous mes parents, le père et la mère viennent du Maniema.
C'est en 1964, le 18 novembre exactement, que vous voyez le jour. Vous êtes issu d'une famille de militaires.
Oui, en effet, mon grand-père était le premier noir dans la force publique à obtenir le grade de sergent. Il s'appelait le sergent Tshoko Anombele, mais plus connu par un surnom que les Belges lui avaient donné, en particulier le baron Danis, qui était le commandant de la force publique à l'époque. Il est connu sous le nom de sergent Lufungula.
Le camp Lufungula, c'est son nom.
Exactement. Le camp Lufungula, c'est l'avenue Willeri à Kinshasa. D'autres avenues dans la commune de Ngaliema, même dans l'arrière-pays, il y a beaucoup de rues qui portent son nom parce que c'était un grand héros de la force publique. Mon père n'était pas militaire, mon père était un fonctionnaire. Pendant un moment, il était plongé dans la politique parce que c'était le directeur de cabinet de l'un des martyrs de la Pentecôte, les quatre politiciens que Mobutu avait fait tuer en 66. L'un d'entre eux s'appelait Alexandre Mahamba. Mon père était son directeur de cabinet.
Thomas Louaka, peut-il nous parler de ses études primaires et secondaires?
Je suis né donc à Kindu. Je crois j'avais moins d'une année lorsque mes parents sont venus s'installer à Kinshasa. Donc j'ai commencé ma scolarité ici à Kinshasa, à l'école Saint-Georges de Kitambo, où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Après cela, je suis allé dans une école qui venait d'ouvrir l'année même. C'était dans la commune de Ngaliema, dans un camp d'officiers qui s'appelle Camp Badiadingi. Donc, j'ai fait 2 années CO au Camp Badiadingi. Et après cela, après avoir obtenu les cycles d'orientation, je suis venu m'inscrire dans une école dans la commune de la Gombe qui s'appelait l'Institut professionnel du fleuve, où j'ai fait 3 ans pour obtenir un diplôme qu'on appelait brevet d'aptitude professionnelle en électricité. Après cela, je suis allé m'inscrire à l'ISTA. À l'époque, il y avait une cellule ISTA Gombe où j'ai fait des départements de métiers spécialisés. J'ai obtenu un diplôme de technicien en télécommunication de niveau A2. Après avoir obtenu ce diplôme, je me suis inscrit en premier graduat électricité à ISTA Ndolo, l'actuelle ISTA où ça se trouve. Et lorsque j'ai commencé cette première année, j'ai arrêté parce que j'ai attrapé une maladie qui atteint beaucoup de Congolais à cet âge-là. C'était la fièvre d'aller en Europe. Donc j'ai arrêté mes études. J'ai commencé à me débrouiller pour pouvoir aller en Europe.
Quel souvenir Thomas Louaka gardait-il de sa jeunesse?
Oh, des très très bons souvenirs parce que j'ai grandi dans une très grande famille. Comme je ne l'ai pas dit au départ de l'émission, le sergent Lufungula, après avoir quitté l'armée, il est devenu un grand chef coutumier chez nous, dans la collectivité de Bangengele. Donc c'était un grand chef coutumier. Donc mon père a eu cette habitude d'accueillir beaucoup de gens dans sa parcelle. À Kitambo, là où on a grandi, il y avait toujours beaucoup de monde dans la parcelle. Donc j'ai grandi, j'ai été élevé dans une très très bonne ambiance avec un père très rigoureux, mais très intègre, et une maman assez exigeante, mais très affectueuse. Donc c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Je garde de très très bons souvenirs de mon enfance.
Et vous donnez l'apparence d'une personne qui était très bouillante.
Non, non, justement, c'est le contraire. Les gens qui m'ont connu pendant l'enfance ne me reconnaissent pas aujourd'hui parce que j'étais assez réservé. Les gens que je ne connaissais pas, je ne pouvais pas aborder directement. Les gens sont parfois surpris de voir les changements qui s'est accompli dans la période de mon adolescence, surtout lorsque je suis allé en Europe.
Radio Capi, grand témoin.
Ancien président de l'Assemblée nationale pendant la transition, actuellement député national et secrétaire exécutif national du Mouvement de Libération du Congo MLC, Thomas Louaka Losenjola est celui que Grand Témoin vous présente aujourd'hui. Alors Thomas Louaka, vous nous parliez après vos études du moment où vous deviez aller en Europe.
Oui, mon père, lorsqu'il a laissé tomber la politique, lorsque Alexandre Mahamba a été assassiné, ça l'a traumatisé, il n'a plus voulu entendre parler de la politique. Il avait un ami à lui en 1967 qui est venu la collaborer pour pouvoir créer un parti politique qui était en train de se mettre à l'époque en place. L'émission en question s'appelle Kitima Bin Ramazani. Mon père a décliné l'offre, donc il ne s'est plus jamais impliqué dans la politique. Après, il est devenu fonctionnaire, directeur du cadastre dans la ville de Kinshasa. Et j'ai dit tout cela pourquoi ? Pour expliquer qu'on n'était pas dans une famille très aisée, la famille d'un fonctionnaire.
Une famille moyenne.
Une famille moyenne, donc je n'avais pas le moyen d'avoir un ticket pour aller en Europe. J'ai commencé donc à faire des activités qui pouvaient me rapporter un peu d'argent, telles que, vous voyez, la Cour suprême de justice sur l'avenue de la justice, juste en face, il y a une station d'essence. À côté là, j'ai ouvert un kiosque où j'ai commencé à vendre des coca et des sandwichs. Ça marchait relativement bien. Les gens peut-être ne se souviennent pas de la Cour suprême, des magistrats qui venaient là-bas dans les années 85-86. Thomas qui vous vendait les boissons sucrées, c'est bien Thomas qui est venu. Donc, j'ai commencé à vendre les boissons sucrées, les sandwichs, et puis lorsque j'ai eu un peu d'argent, j'ai commencé maintenant à faire le trafic avec Brazzaville. On achetait des climatiseurs ici, on faisait réparer et on allait vendre ça en face à Brazzaville. Ça a rapporté assez bien. Et puis, après quelques temps, j'ai pu obtenir une somme. C'est comme ça que je me suis acheté un billet et obtenir un visa pour aller en France. Donc, je suis allé en passant par la Belgique. Je suis allé en France en 86. Et là-bas, je n'ai pas tout de suite repris les études parce que vous comprendrez que maintenant, je voulais faire le droit. Mais avec mon diplôme de technicien, la France n'acceptait pas l'équivalence. Donc, j'ai été obligé de faire un cursus particulier. Il y a en France ce qu'on appelle dans certaines facultés de droit. La capacité en droit, c'est une étape, une section, on vous permet d'accéder sans avoir un diplôme d'État. Je me suis inscrit à la capacité en droit à l'université de Paris 2, Panthéon Assas, et j'ai fait mes 2 ans pour obtenir l'équivalent d'un diplôme d'État.
Mais le technicien de l'ISTA au droit, il y a un grand fossé. Hein?
Il y a un grand fossé. En fait, je n'ai fait que renouer avec mes anciens amours. Lorsque j'ai fini le cycle d'orientation, je voulais faire la section littéraire. Et comme vous le savez, comment ça se passe ici dans notre pays, maman a donné un peu d'argent à quelqu'un pour aller me faire inscrire au collège Bogoto. Le monsieur a bouffé l'argent, il a disparu à la rentrée scolaire. J'ai commencé donc à chômer et pendant 2-3 semaines, j'étais à la maison. Maman qui commençait à s'inquiéter parce qu'il disait, oui, il restait chômeur, il va devenir un voyou. Et il y a un monsieur qui a proposé, il dit, écoutez, au lieu qu'il puisse chômer à la maison comme ça, pourquoi ne pas l'inscrire dans une école professionnelle et comme ça, il s'occupe. Et voilà comment je me suis inscrit dans la section électricité dans l'école professionnelle. Mais ce n'était pas mes premiers amours. Après avoir obtenu ce diplôme de capacité en droit, je me suis réinscrit maintenant dans la faculté des droits et là, heureusement pour moi, j'ai pu obtenir successivement une licence en droit, une maîtrise en droit et puis j'ai fait les 3e cycle où j'ai obtenu un diplôme d'études approfondies en droit et puis parallèlement aux études de droit, j'ai fait les études de sciences politiques, j'ai obtenu une maîtrise de sciences politiques et enfin, pour finir avec ce cursus, j'ai commencé à préparer une thèse en droit privé. Parallèlement à la préparation de la thèse, j'ai été retenu comme chargé d'enseignement, ce qu'on appelle ici assistant, à l'université de Paris 2 où j'ai enseigné pendant 2 ans.
Pendant que vous étiez en Europe, vous aviez dit que vous étiez d'une famille moyenne. Comment vous avez fait pour payer vos études?
Ah, voilà. Je faisais ce qu'on appelle là-bas des petits boulots. J'étais ouvrier, j'ai fait un stage de peintre, je faisais la peinture dans les bâtiments et puis après cela, je me suis mis à l'électricité. Mes notions d'électricité que j'avais apprises ici sont restées. Donc, je suis devenu ouvrier électricien dans le bâtiment. C'est grâce à ce travail d'ouvrier électricien que j'ai pu financer mes études. Je peux juste citer 2 chantiers que j'ai fait en France. La Grande Bibliothèque de France et puis la Grande Arche de France, c'était aussi un grand bâtiment qui est très connu en France. Ou même au stade, le Parc de Princes, j'ai déjà travaillé dans ces bâtiments comme ouvrier électricien. Donc, cela me permettait de travailler, de mettre un peu d'argent de côté et de pouvoir financer mes études.
Et après vos études, vous revenez directement au pays?
Non, je ne reviens pas directement au pays. Après les études, lorsque maintenant je suis chargé d'enseignement, avant cela d'ailleurs, pendant les études, j'ai fait la connaissance d'un compatriote. Je l'ai rencontré d'ailleurs de manière assez particulière. Il s'appelle Delice Essanga. C'était l'ancien ministre du Plan et l'actuel président de la PAJ. On échange avec lui, on sympathise et puis il va me dire, écoutez, tu as des idées pour le pays, mais pourquoi on ne doit pas militer dans une organisation au lieu de réfléchir seul dans ton coin? Et il va m'amener dans une structure politique, me présenter le président de cette organisation, le parti politique. Ça s'appelait Force du Futur et le monsieur qui va m'être présenté comme président du parti s'appelait Arthur Zaïdingoma. Je vais rencontrer un autre jeune avec qui j'ai sympathisé aussi, qui deviendra plus tard ministre, il s'appelle Didier Moumeng. Et puis, il y a un autre camarade aussi que j'ai milité avec lui à Paris, qui deviendra aussi ministre, il s'appelle Toussaint Chilombo. Donc, c'est les cadres avec qui on a milité dans un même parti politique. Après l'arrivée de l'AFDEL, Zaïd Ngoma va venir ici pour dire maintenant c'est la démocratisation du régime, et il va être arrêté. Arrêté, jugé dans les Katanga, emprisonné, et puis vous connaissez la péripétie, il va être libéré. Après cela, on dit qu'il n'y a pas de dialogue possible avec Mosé, Laurent Désiré Kabila, il faut lever d'autres options puisque les dialogues ne marchent pas. C'est comme ça qu'en 1998,
en août exactement,
en août 98, Zaïd Ngoma, moi-même et Denis Sessanga, les trois membres de Force du Futur, nous allons descendre à Goma pour participer à la création du Rassemblement Congolais pour la Démocratie.
Mais le Rassemblement Congolais pour la Démocratie que vous allez quitter encore quelques temps après, pourquoi?
Oui, dans un premier temps, c'est Zaïd Ngoma qui va partir pour des raisons qui lui sont propres. Moi, j'ai dit, bon, j'ai quitté l'Europe pour venir, pour aider à contribuer à ce qui est la démocratisation au niveau du pays. Moi, je pense que je dois continuer. Donc, je reste. Il va y avoir des divergences entre les nationalistes congolais et l'un des alliés qui était l'allié rwandais. On ne se met pas d'accord, il y a beaucoup de divergences et c'est là que le mouvement va se scinder en deux. Il y a une aile qui va partir à Kisangani avec le professeur Wamba Diawamba, Moussa Nyamwisi. Je ferai partie des cadres qui vont accompagner le professeur Wamba Diawamba à Kisangani pour créer le RCD Kisangani.
Vous êtes allé d'instabilité en instabilité. Vous n'êtes pas habitué à quelque chose d'assez stable, Thomas Gwaka?
Non, je suis quelqu'un qui a des convictions, qui est très engagé, mais lorsque je considère en toute honnêteté que les intérêts du pays et la structure dans laquelle je milite commencent à diverger, le plus rapidement possible, je lève une option.
Après le professeur Wamba Diawamba, Moussa Nyamwisi, comment vous arrivez au MLC?
En effet, lorsque en 2001, le RCD Kisangani va fusionner avec le MLC pour créer ce qu'on avait appelé les Fonds de Libération du Congo. Ce Fonds de Libération du Congo est créé le 16 janvier 2001, le jour de la mort de Mosé. C'est vraiment une coïncidence. Donc, on se met ensemble, on commence à travailler dans le cadre du Fonds de Libération du Congo et au sein du RCDK-MLGT, les commissaires chargés de la défense, donc le ministre de la défense, parce qu'il y a une étape que j'ai sautée. Entre-temps, j'ai suivi une formation militaire à l'étranger, je suis revenu, donc je suis responsable des activités militaires. Et dans le FLC, Bemba m'est reconduit aux mêmes fonctions, responsable des activités militaires. Donc on va commencer à travailler avec Bemba dans le cadre de cette structure, de cette fusion. Et le second semestre de 2001, il va y avoir même des affrontements, je crois pendant plus de 3 jours, à Beni, où la garde privée des ministres Moussa Nyamwisi attaque Jean-Pierre Bemba. Et lorsque le calme est intervenu, on arrête les hostilités, l'option est rêvée que le FLC doit mourir, donc on doit se séparer. Comme maintenant, moi, j'étais en divergence sur la stratégie avec Moussa Nyamwisi, je me suis dit, bon, moi je suis venu faire la guerre, c'est pour libérer tous les Congolais et non pas rester à l'est du pays. Je pense que j'ai échoué. Dans la vie, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on a échoué. J'ai tenté de contribuer à une révolution dans mon pays. Puisque j'ai échoué, je dois rentrer en Europe, aller vivre les sarcasmes de mes amis et de mes camarades qui sont restés là-bas. Et lorsque je suis allé dire au revoir à Jean-Pierre Bemba et à Olivier Kamitatou, ils vont me proposer, ils disent, mais pourquoi tu rentres en Europe? L'Équateur, c'est aussi la RDC, Guadeloupe, c'est le Congo. Pourquoi tu ne viens pas continuer la lutte avec nous? Et c'est comme ça que je vais intégrer le MLC lors de la dissolution du Front de Libération du Congo.
Nous allons enjamber un peu quelques étapes. Le dialogue intercongolais a lieu à Sun City en 2002. C'est la transition, le gouvernement 1+4. Et pendant la transition, Thomas Louaka se dispute la tête de la présidence de l'Assemblée nationale avec Olivier Kamitatou. Expliquez-nous un peu cet épisode.
Oui, assez brièvement, dans l'accord global inclusif, il était inscrit que lorsqu'un cadre, un membre du Parlement, quitte son parti politique, il perd son siège, parce que le siège, il l'a obtenu dans le cadre de sa formation politique. Donc, les problèmes étaient là-dessus. Notre ancien secrétaire général, Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale, a décidé de quitter le MLC. Donc, il y a une lutte là pour savoir s'il quitte le MLC, doit-il garder la présidence de l'Assemblée nationale, puisque le siège de l'Assemblée nationale avait été attribué dans les quotas MLC. Donc, voilà, la lutte a porté là-dessus, une lutte un peu juridique que la Cour suprême a tranchée en disant que non, monsieur Olivier Kamitatou, vous avez quitté votre parti politique, vous ne pouvez plus garder le siège du président de l'Assemblée nationale, le siège revient bien au mouvement de libération du Congo. Et c'est comme ça que j'ai pu succéder à Olivier Kamitatou à cette place.
Mais cette succession ne s'est pas faite dans la douceur, hein. On vous a vu au palais du peuple, vous agitez, les élans militaires qui revenaient.
Non, c'est pas ça, je crois que les gens ont amplifié aussi la chose. J'ai fait une descente une fois à l'Assemblée nationale, juste pour constater que les portes étaient fermées, mais je suis allé là-bas accompagné des hauts cadres du parti. Et puis de ma garde personnelle, j'avais, si je me souviens bien, 3 militaires qui d'ailleurs étaient en tenue civile. C'est vrai qu'ils étaient armés avec des pistolets, mais ils étaient en tenue civile. Mais les médias, la presse, le lendemain a dit que non, j'ai envahi l'Assemblée nationale avec des chars de combat, avec des militaires, avec des fusils d'assaut, ce qui était exagéré.
Thomas Louaka, nous avons retrouvé un de vos amis. Nous allons lui donner l'occasion de se présenter et on verra si vous pourrez le reconnaître. Allô, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous dire quelque chose à Thomas Louaka pour qu'il vous reconnaisse sans vous présenter d'abord?
Honorable, c'est un ami d'enfance. Le souvenir que je garde, c'est notre vie d'ensemble à l'Institut Badiading. Là où je l'ai connu, c'était un homme de caractère. Nous avons suivi une éducation de fer de la part de notre ancien préfet.
Qui était colonel?
Le colonel Tan Nabandoua.
Thomas Louaka, vous reconnaissez la personne?
Non, malheureusement, je ne reconnais pas.
Allez-y, présentez-vous.
C'est M. Molonga, Richard.
Ah, comment ça va, Richard?
Oui, ça va très bien, mon frère.
Ok, quelle nouvelle? Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. On est toujours là.
Ah non, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Thomas Louaka, quel effet ça vous faisait d'avoir un préfet colonel?
Bon, je crois que le colonel Bandoua nous a inculqué un sens très développé de la discipline, parce que peut-être c'est que mon ami Richard ne donne pas les détails. Le colonel venait à l'école en tenue militaire, et avec son pistolet. Et donc, tous les jours, on avait en face de nous un directeur en tenue de combat. Et on était obligés, tous les matins, de chanter l'hymne national. Et comme lui, il était passionné de l'accordéon, donc on devait l'accompagner à un accordéon en chantant l'hymne national.
Exactement.
Alors, M. Richard, pouvez-vous dédier une chanson à Thomas Louaka?
Oui, la chanson du tout ça, Fali Poupa.
Thomas Louaka, vous aimez la musique?
Oui, j'adore la musique.
Et vous connaissez Fali Poupa?
Oui, je connais très bien.
Alors, je vous invite à suivre la chanson.
Ok, merci beaucoup. Merci, Richard.
Merci.
François Baba di Mouluba, international Mba Yushila, François Moukeba, père de Tétérèse à l'Iberoché, les démons à tout top crédibilité, le Dieu Martin Fayou le King Bouffe, l'Afrique à l'ombre solution, le PDG Bob et Mouliade, Christian Imani, l'homme à battre, Orgélie Gambio, mon général David, Maïna Kacho Christian, allez, ah, ma mère, Bob, ça m'a fait savoir si tu vas faire. Ngouli, tu t'es capé, papa, les poutres, Abina, Olé.
Maloba, ça voyait, mais ça qui m'a aidé. Ok, ça va qui m'a promené, laisse-moi maman dans le photo. Ça va qui fait quoi, ça n'est pas fait, j'ai pas qu'on change d'idée. Ça vous pas tout, ça vous pas tout. Ça vous pas tout, maman a compris.
Aïe, mes
chéquins,
Monsieur le maire, il est volonté.
Je
Franck, je suis Bimba, Moustapha Doulanda, ma casse sécurité.
Je pas la main dans le bol à mon assis, mais je ne papa.
Thomas Louaka, pouvez-vous dire quelque chose à Richard pour clôturer ce petit entretien avec lui?
En tout cas, Richard, merci beaucoup et je remercie tous les camarades que j'avais connus à Badiadingui qui m'ont aidé par leurs conseils, leurs exemples, qui ont influé sur la personne que je suis aujourd'hui. Il y a chacun d'entre eux qui a contribué par son caractère, par son tempérament à faire de moi ce que je suis. Et en particulier, il y en a un qui est devenu aujourd'hui général de FRDC et commandant de la première région militaire dans la province de Bandundu, je vais parler du général Ndima.
Richard Molongia, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Thomas Louaka, revenons à vous. En 2006, ce sont les élections. Le président Joseph Kabila a été élu. En 2007, au mois de mars, ce sont les affrontements. Dites-nous un peu, comment vous vivez ce moment où la garde de Jean-Pierre Bemba s'affronte avec la garde républicaine?
Je vis ça très très mal parce que j'étais dans les processus, j'étais vraiment dans le cœur de ce qui s'est passé. J'ai une conviction que ce qui s'est passé pouvait être évité. Donc je vis ça comme un drame. C'était un drame parce que les Congolais ont perdu leur vie. J'ai très très mal vécu cela. Il y avait des contacts à gauche et à droite avec la MONUC, avec les gens de la présidence, de notre côté aussi. Mais je pense que nous avons tous eu un petit moment de folie, une folie collective, et les drames n'ont pas pu être évités. Mais c'était possible qu'on pouvait éviter ça.
Et vous pensez que ça peut être réparé?
Non, c'est difficile. C'est difficile de ressusciter les Congolais qui sont morts. On peut peut-être prendre des mesures pour que cela ne puisse se reproduire, des mesures pour pouvoir réconcilier les gens les uns et les autres, mais c'est difficile de réparer.
L'actualité, c'est aussi la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des Kivu. Thomas Louaka, vous avez une réaction par rapport à l'organisation de cette conférence?
Oui, bien sûr, nous avons applaudi cette initiative parce que nous sommes convaincus que la politique, les institutions que nous avons mises en place, ce sont des engrenages d'une grande machine et que, comme toute mécanique, on a besoin de lubrifiants. Et nous pensons qu'en politique, le lubrifiant s'appelle le dialogue, pour pouvoir huiler tous les mécanismes que nous avons mis en place. Donc, nous avons applaudi à l'initiative. J'ai personnellement d'ailleurs fait une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité. Motion consistant à demander l'élargissement du cercle des invités. Au lieu de cantonner cette affaire entre Kivusiens, qu'on puisse appeler les Congolais d'ailleurs pour qu'ils puissent venir. C'est ça qui fait qu'il y a eu cette ouverture. Donc, nous avons applaudi. Mais en même temps, il faut dire que c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec des institutions mises en place. pourquoi nous avons mis des assemblées provinciales, pourquoi nous avons mis un parlement en place. Les assemblées provinciales sont la réunion des représentants des populations locales. Donc nous avions pensé que s'il y a un problème au niveau local, le problème doit être amené au niveau de l'assemblée provinciale pour être résolu. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on bypasse les assemblées provinciales parce que les assemblées provinciales sont incapables de résoudre ces problèmes. Même dans le Sud Kivu, c'est la même chose. Au niveau de l'Assemblée nationale aussi, on amène les problèmes dans un autre cadre non institutionnel, un cadre informel que les chefs de l'État viennent de mettre en place. Je crois que c'est un aveu d'échec des institutions, mais on peut corriger cela le plus rapidement possible. Nous sommes dans une démocratie, les institutions sont mises en place, il faut tout faire pour que les institutions puissent commencer à apprendre à résoudre les problèmes de la société. Au niveau du gouvernement aussi, le gouvernement est chargé de sécuriser la population. On voit maintenant la question sécuritaire est inscrite dans un grand forum. Donc ça, c'est un aveu d'échec. Mais autre chose aussi, nous sommes préoccupés du fait que cette grande réunion est organisée dans un environnement précaire. Vous savez la situation qui est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait du Kakunda? Nous, on aurait souhaité, en tout cas, c'est mon avis personnel, on aurait souhaité régler d'abord la question Kunda. Et puis passer à la deuxième étape de cette conférence. Maintenant, on ne sait pas. La question Kunda va-t-il être inscrit à l'ordre du jour? J'ai eu le privilège d'avoir l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour de cette réunion. Je n'ai pas très clairement vu la question Kunda inscrite là-dedans. Donc, nous aurons souhaité que la question Kunda soit résolue avant de pouvoir faire cette conférence, parce que c'est quand même inconcevable qu'une grande conférence sur la paix se fasse à Goma et on demande l'appui sécuritaire de la MONUC.
Thomas Luaka, le 6 décembre dernier, le président Joseph Kabila a présenté son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'an 1 de son élection comme président démocratiquement élu. Quel bilan vous faites une année après?
Je pense que si on est optimiste, on peut dire que les choses vont bien sur le plan politique parce que les institutions sont mises en place, il y a un gouvernement légitime, un président légitime, une assemblée nationale et un sénat qui sont là, les institutions provinciales sont mises en place. On peut dire que bon, les institutions sont en place, c'est déjà une bonne chose. On regarde dans la bonne direction. Même si sur le plan politique, nous de l'opposition et MLC en particulier, nous sommes toujours préoccupés par la longue absence de notre leader national, Jean-Pierre Bemba, nous aurons souhaité que ces problèmes puissent être aussi réglés pour que la fête soit totale. Mais malgré ces apparences de normalité, il y a quand même une inquiétude. Une inquiétude pourquoi? Parce que une année après les élections, pendant les élections, nous avons promis des choses aux Congolais. Nous leur avons dit, sortez de vos églises, sortez de vos boîtes de nuit, sortez de vos ngandas, venez voter. Parce que la solution n'est pas dans l'église, la solution n'est pas dans l'inganda, la solution est dans les urnes. Venez vous-même choisir vos dirigeants. Les compatriotes sont sortis de ces lieux de refuge, ils sont venus, ils ont voté massivement. Mais une année après, les dividendes de la démocratie ne sont pas là. L'air quotidien n'a pas changé. Le chef de l'État a dit que la situation, les Congolais se portent mieux depuis une année. Ce n'est pas l'impression, en tout cas, des Congolais que moi je côtoie tous les jours. Donc, il y a un peu cette déception-là sur le plan social. La situation est en train de se dégrader. Il faudrait le plus rapidement possible que le gouvernement, qui est un gouvernement de remerciements, dans un premier temps, on pouvait comprendre que le chef de l'État remercie les gens qui ont porté ses t-shirts, qui ont fait sa campagne. Mais nous pensons qu'une année de remerciements, ça suffit. Maintenant, il faut mettre en place une équipe solide, des gens compétents, qui peuvent redresser la situation. Sinon, le chef de l'État peut garder, continuer à avoir sa vision d'un beau Congo qu'il veut construire avec une équipe de gens qui sont incapables d'imprimer cette vision sur le terrain.
Thomas Luaka, il nous reste quelques secondes pour terminer cette émission. Vous avez fait allusion à Jean-Pierre Bemba, le président du MLC. Jean-Pierre Bemba reviendra-t-il finalement, oui ou non?
Tout dépend des autorités en place. Parce que, comme vous le savez, dans un pays, c'est l'État qui a le monopole de la force. C'est l'État qui a l'obligation de sécuriser toute la population. Aujourd'hui, nous demandons un dispositif sécuritaire pour notre leader Jean-Pierre Bemba. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de réponse à cette question-là, mais on nous répond sur d'autres questions en nous disant qu'il a un problème avec la justice, il a un problème avec le Sénat, mais la question sécuritaire ne relève ni de la justice, ni du Sénat.
Alors, avant de clôturer complètement cette émission, Thomas Luaka peut-il saluer en langue maternelle tous les auditeurs qui nous suivent à Kindu?
Et malheureusement, je connais pas la langue maternelle, mais en revanche, je peux parler le swahili.
Allez-y.
Nasalimia va tout bote, il y a est, il y a province orientale, nord Kivu, sud Kivu, Katanga, Namanyema. Ambition yangu, nikalaka, tukuye tonane, tuikale, ne regardez, bah, très bon souvenir, il y a Lubumbashi, mais narikala mingi Lubumbashi, et puis Bukavu, Goma narikala pe mingi, Beni Butembo, Bunya, Kisangani, Buta, Isiro, nasalimia batoto bote, ele ngambo benyebe kuna nifata, et puis, na lingala pe, na kopesa bandeko nyonso, ya Equateur, oyo bayambaka nga malamu, na mbula, oyo nyonso na ikisaki nakati Equateur, bana ya Lisala, bana ya Bumba, bana ya Zongo, bana ya Guadolite, na oyo na Bosani, na pesi binombote mingi, et puis pona ba Congolais nyonso, à tous les Congolais, je présente mes vœux, le meilleur pour cette année 2008, nous espérons sincèrement que les choses vont commencer à s'améliorer, parce que nous, nous sommes convaincus que le seul régime capable de redresser la situation dans notre pays, c'est la démocratie. Maintenant, il faut mettre cette démocratie au service de la population, parce que la démocratie va nous amener la transparence dans la gestion. Nous nous battons pour qu'il y ait la transparence et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance va amener l'amélioration de nos conditions de vie. Ne vous fatiguez pas, il n'y a pas une fatalité. Ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Nous pouvons nous en sortir si tout le monde est animé de bonne volonté.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Thomas Louaka Losejola, ancien président de l'Assemblée nationale pendant la transition, actuellement député national et secrétaire exécutif national du Mouvement de Libération du Congo MLC. Vous pouvez suivre cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Kevin Koutela réalisé et Sylvain Baouwere la mise en onde. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.